VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce vendredi 27 février. À la une ce soir.
Pour parler de paix intermalien, un nouveau projet d'accord a été soumis aux deux parties par la médiation algérienne.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle au dialogue avant les élections de 2016.
À Diffa, ville nigérienne proche du Nigeria, la situation humanitaire se dégrade de jour en jour. Nous en parlerons avec Oumarou Dadi Rabiou du CICR.
C'est extrêmement difficile de dire le nombre de déplacés actuellement parce qu'il se pose encore des difficultés à accéder à certains lieux où pourraient être des déplacés.
Nouveau revers pour les djihadistes de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie. Une place forte occupée depuis un an a été reprise par les combattants kurdes.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Pour parler de paix au Mali entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, la médiation algérienne a remis un nouveau projet d'accord aux deux parties. C'est ce qu'indique l'AFP, intitulé « Accord pour la paix et la réconciliation au Mali » issu du processus d'Alger. Ce texte de 30 pages appelle à reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices qui respectent son intégrité territoriale, tiennent en compte de sa diversité ethnique et culturelle. Il mentionne l'appellation Azawad comme une réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique partagée par différentes populations du Nord Mali. Le projet prévoit l'instauration d'une période intérimaire de 18 à 24 mois dès la signature d'un accord global et définitif de paix.
Dans la région de Gao, dans le Nord Mali, les enseignants ont arrêté de travailler à compter de ce vendredi, et cela jusqu'au 6 mars. La raison, insécurité au sein des établissements scolaires, nous dit Boubacar Touré.
Le mot d'ordre de cessation de travail décrété par l'ensemble des syndicats de l'éducation de la région de Gao a été bien suivi par les enseignants. Partout, les écoles sont restées fermées et cela doit se poursuivre jusqu'au 6 mars prochain. Ibrahim Touré, porte-parole des syndicats de l'éducation dans la région de Gao, nous explique ce qui a motivé cet arrêt de travail.
C'est suite à un enseignant qui a été frappé dans sa classe en violation du règlement intérieur de l'école et en violation même de l'article 3 de la Constitution du Mali.
C'est donc des agressions dont les enseignants sont très souvent victimes qui ont conduit les syndicats de l'éducation de Gao à arrêter le travail dans toutes les écoles du primaire au fondamental. Ibrahim Touré, porte-parole des syndicats de l'éducation.
Au niveau des écoles, nous ne sommes plus en sécurité. Nous avons cité le cas de Djoula, public B. Il y a un élève qui a pris un couteau et si le maître ne s'est pas cherché, il allait l'égorger, l'éventrer. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Personne n'est là pour nous sécuriser.
En attendant que les syndicats rencontrent les autorités scolaires et administratives pour la gestion de la crise, les écoles de la région resteront fermées jusqu'au 6 mars prochain. Gao Boubacar Touré pour VOA Afrique.
Ellen Johnson Sirleaf à la Maison-Blanche, en visite à Washington. La présidente du Libéria a été reçue par le président Barack Obama aujourd'hui. Rencontre qui devait notamment s'articuler autour de la lutte contre l'Ebola.
Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Bangui, le président de l'Autorité nationale des élections, Dieudonné Kombo Yaya, s'est exprimé quant à la lenteur de l'application du chronogramme des élections, liée selon lui à la difficulté d'ordre financier, matériel et sécuritaire. Dieudonné Kombo Yaya.
Depuis notre entrée en fonction, le 24 décembre 2013, nous avons été confrontés à d'énormes difficultés, principalement d'ordre financier. Nous avions rédigé en mars 2014 un projet de chronogramme objectif et réaliste pour servir de base aux actions futures devant nous mener aux élections. Malheureusement, les difficultés financières, matérielles, sécurité et même de temps ne nous ont pas permis d'organiser les élections en février 2015. Nous avions alors remanié ce chronogramme en vue de procéder à l'enregistrement des électeurs en janvier et février 2015, d'organiser le référendum constitutionnel en mai et les premiers et deuxième tours des élections présidentielles et législatives en juillet et août respectivement. Dans le souci du respect du calendrier de la transition, le groupe international de contact a modifié l'ordre pour que les deux tours se tiennent en juin et juillet 2015. Il faut cependant souligner que la faisabilité technique et la mise en œuvre du chronogramme remanié, en plus des détails très courts, sont tributaires de la satisfaction à brève échéance d'un certain nombre de préalables et de conditions dont les principaux sont l'opérationnalisation de l'ANE, y compris la mise en place de ses démembrements et de son administration au niveau central.
Dieudonné Kombo Yaya, président de l'Autorité nationale des élections en RCA.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des déplacés ont commencé à rentrer à Moulingué après la fin de l'offensive de l'armée contre les rebelles hutu-rwandais. Claire Morin-Gibourg.
Les habitants de Moulingué, qui étaient réfugiés à Léméra et ses environs, ont commencé à rentrer depuis jeudi soir, a précisé à l'AFP un habitant de Léméra. Un responsable d'association a évoqué que plusieurs centaines de personnes avaient pu rentrer chez elles. Les troupes régulières ont déclenché mardi, sans l'appui des casques bleus, une offensive au sud Kivu contre les FDLR, dont des chefs sont accusés d'avoir participé au génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Cette opération est la première signalée depuis que l'armée avait annoncé le 29 janvier le lancement d'une offensive contre les FDLR, auteurs de graves exactions contre les civils congolais et qui se livrent à de lucratifs trafics de bois et d'or.
La Cour pénale internationale a confirmé aujourd'hui en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngudjolo Chui. L'ancien milicien était accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village de la RDC en 2003 et en fait plus de 200 morts. Saloua Jafari.
La Cour pénale internationale a tranché. Mathieu Ngudjolo, 44 ans, est désormais libre. Le verdict d'aujourd'hui n'était pas vraiment une surprise. La CPI avait déjà acquitté le prévenu en décembre 2012, faute de preuves. Pourtant, les juges de la Chambre d'appel ont estimé que leurs collègues de première instance avaient commis des erreurs lors du procès, en refusant par exemple au procureur l'accès à l'ensemble des enregistrements de conversations avec Ngudjolo au centre de détention. Autre faille relevée, les juges auraient dû permettre à un témoin d'expliquer ses incohérences suite à des soupçons d'intimidation. Des décisions qui n'ont pas eu d'effet substantiel sur le jugement d'acquittement, a précisé le juge Nonongeng, et ne sont donc pas suffisantes pour changer la décision de première instance. L'avocat des victimes ne cache pas son amertume. Pour Fidel Nsita, la sentence ouvre de nouveau un moment de deuil pour les victimes. Loin des tribulations de l'AE, Mathieu Ngudjolo, lui, séjourne aux Pays-Bas, où il attend la décision sur sa demande d'asile.
Au Congo, une quinzaine de partis de l'opposition appellent le président Denis Sassou Nguesso à engager sans délai un dialogue national à l'approche de la présidentielle prévue en 2016. D'après l'AFP, le collectif de l'opposition demande également l'élaboration d'un calendrier rigoureux des différentes opérations préélectorales et électorales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine se dit prête à redéployer ses armes lourdes sur la ligne de front dans l'est du pays. Les séparatistes soutenus par Moscou continuant à violer le cessez-le-feu. Le point avec Camille Grosdidier.
L'armée ukrainienne est prête à tout moment à résister à l'ennemi, a déclaré vendredi le président ukrainien Petro Poroshenko. Entre-temps, un porte-parole militaire ukrainien a déclaré que 3 soldats gouvernementaux ont été tués et 7 blessés au cours des dernières 24 heures. Cela faisait 2 jours consécutifs qu'on ne signalait pas de mort. Même si la trêve tient, a poursuivi M. Poroshenko, la mise en œuvre des accords de paix conclus à Minsk ne dissipera pas la menace militaire venue de l'Est. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a lui évoqué des progrès dans le retrait des armes lourdes dans l'Est de l'Ukraine. Il a souligné l'importance de respecter les autres modalités de la trêve, y compris les questions humanitaires et la réforme constitutionnelle dans la région du Donbass.
Des combattants kurdes syriens se sont emparés des faubourgs sud et est d'un fief du groupe État islamique dans la province de Asaké, au nord-est de la Syrie. Il s'agit de Tal Hamis. Voilà pour le journal.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, ce soir avec Nathalie Barge.
Dans son discours à la Nation jeudi, le président ghanéen s'est engagé à gérer les problèmes d'électricité, déclarant que tout le monde ressent les effets de la crise de l'énergie et que les entreprises et industries menacent de licencier. John Dramani Mahama a déclaré que son gouvernement élaborait un partenariat avec le secteur privé pour installer des centres de panneaux solaires dans tout le pays. Il a aussi promis d'améliorer les systèmes traditionnels. L'ex-ministre zambien des mines, Maxwell Mwale, a été condamné ce vendredi à un an de prison pour corruption. Il lui est reproché d'avoir accordé une licence d'exploitation à une compagnie chinoise de manière irrégulière, indique l'AFP. Ministre entre 2008 et 2011, il a été interpellé en 2012 lors d'une opération anticorruption du gouvernement. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a reconnu pour la première fois des erreurs dans la réforme agraire des années 2000, rapporte l'AFP. « Je pense que les fermes que nous avons données étaient trop grandes. Ils ne peuvent pas les gérer », a-t-il déclaré à la télévision nationale jeudi soir, ajoutant que la plupart des fermiers noirs ayant bénéficié de ces terres ne cultivent qu'un tiers de la superficie exploitable car ils sont sous-équipés et parfois non expérimentés. Le Zimbabwe, qui exportait ses produits agricoles avant la réforme, est obligé d'acheter du blé aux pays voisins et de faire appel à une aide alimentaire. À l'époque, des milliers de fermiers blancs avaient été expropriés pour la redistribution des terres à des fermiers noirs.
Et l'on passe tout de suite à la page sport avec Camille Gros-Didier. Salut Camille.
Bonsoir Gabi.
Parlons tout d'abord de la Ligue Europa.
Eh bien, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa a eu lieu aujourd'hui au siège de l'UEFA et l'Italie est déjà assurée de placer un club en quart de finale puisque la Fiorentina et l'AS Roma s'affronteront les 12 et 19 mars prochains. L'Espagne enverra également un club au prochain tour. Les deux dernières équipes de la Liga encore qualifiées, Villarreal et le FC Séville se disputeront un billet pour les quarts de finale. Et puis l'autre choc des huitièmes de finale sera la confrontation entre Wolfsburg, actuel second de la Bundesliga, et l'Inter de Milan. Quant au Dynamo de Kiev, il sera opposé aux Anglais d'Everton. Le Dynamo Moscou affrontera lui Naples.
Et parlant du Dynamo de Kiev, le club risque d'être sanctionné par l'Union européenne de football.
En effet, une procédure disciplinaire a été ouverte aujourd'hui par l'UEFA contre le club de la capitale ukrainienne. Et le dossier va être examiné le 4 mars. Après les incidents qui se sont produits au cours du match contre Guingamp en Ligue Europa hier soir, le Dynamo de Kiev est poursuivi, entre autres, pour invasion du terrain par ses supporters, usage de fumigènes, lancer de projectiles et défaut d'organisation, une référence à des escaliers bloqués.
Mais il n'y a pas que le Dynamo de Kiev à être dans le collimateur de l'UEFA, Camille.
L'Inter est poursuivi pour usage de fumigènes, de même que le Celtic Glasgow, qui devra aussi répondre de mauvais comportements de son équipe. Leur cas sera examiné le 19 mars. Et ce même jour, l'instance disciplinaire de l'UEFA se penchera sur le Bayer Leverkusen, qui est poursuivi, lui, pour banderole illicite dans le cadre d'un match de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid.
En tennis, l'étoile de Roger Federer continue de briller à Dubaï.
Absolument. Le Suisse qui a dominé le Croate Borna Koric 6-2, 6-1 ce vendredi disputera demain la finale du tournoi ATP de Dubaï contre le vainqueur de la seconde demi-finale entre le Serbe Novak Djokovic et le Tchèque Thomas Berdych, respectivement numéro 1 et numéro 8 au classement mondial.
Et on termine en basket.
Oui, alors en championnat nord-américain de basketball, la NBA, LeBron James et ses coéquipiers des Cavaliers de Cleveland ont frappé un grand coup la nuit dernière. Ils ont dominé les Warriors de Golden State, meilleure équipe de la NBA, 110 à 99. King James, comme ses fans l'appellent, était omniprésent avec 42 points, 5 passes décisives, 11 rebonds, 3 interceptions, un contre, donc son meilleur total de la saison. Et dans l'autre match disputé hier soir, les Suns de Phoenix ont créé la surprise en battant Oklahoma City 133 à 117.
Merci Camille.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Robin Dorcil et Morgane Guériac, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Niger. L'état d'urgence est maintenu dans la région de Diffa, à la frontière avec le Nigeria, Morgane.
Depuis le 6 février, la milice islamiste nigériane Boko Haram multiplie les attaques. Les combats et violences ont fait de nombreuses victimes et provoqué le déplacement de milliers de personnes. Le CICR et la Croix-Rouge nigérienne ont distribué des vivres à quelques 5000 personnes dans les localités de Kablewa, Ouidi, Kawa, Djario, qui ont accueilli un grand nombre de déplacés suite au combat. Mais les besoins restent immenses, explique Oumarou Dadou Rabiou du CICR.
C'est extrêmement difficile de dire le nombre de déplacés actuellement parce qu'il se pose encore des difficultés à accéder à certains lieux où pourraient être des déplacés. Ce que nous savons, c'est que nous avons assisté la semaine passée et cette semaine encore, nous continuons à le faire. Des personnes qui ont vécu les dernières violences dans la région de Bosso et qui ont fui et qui se trouvent actuellement un peu plus loin dans un autre département. À ce sujet, nous avons exprimé notre vive préoccupation par rapport aux conditions humanitaires dans lesquelles vivent ces déplacés qui manquent de tout. On n'a pas pu accéder à toutes les personnes qui auraient pu quitter cette région, mais nous y travaillons et nous pensons que, quel que soit l'endroit où elles sont, ces populations sont réellement dans un besoin urgent d'avoir de l'assistance.
Alors, vous avez pu distribuer des vivres, mais en même temps, on signale des dizaines de blessés et apparemment, l'hôpital de Diffa, qui est soutenu par le CICR, ne désemplit pas.
Oui, c'est une situation que nous avons vécue déjà les premiers jours du conflit, dès les premières confrontations armée, la première urgence sur laquelle le CICR a dû se poser, c'était l'urgence médicale. Mais fort heureusement, ça fait déjà plusieurs mois que nous travaillons avec l'hôpital régional de Diffa, c'est l'hôpital de référence de toute la région. Et nous avions renforcé notre stock en médicaments et en consommables médicaux. Nous avions aussi participé ensemble avec le personnel de l'hôpital à des échanges d'expériences avec les équipes du CICR sur les techniques de prise en charge des blessures de guerre. À l'heure où nous parlons, l'hôpital a déjà pris en charge 110 blessés par balle et aussi à la suite d'explosions. Et depuis la semaine passée, le CICR a déployé encore une équipe médicale d'urgence pour aider le personnel médical.
Alors, un grand nombre des populations locales ont partagé le peu dont elles disposent avec les nouveaux arrivés, mais le CICR s'inquiète du risque croissant d'insécurité alimentaire dans la région.
Cela est absolument vrai, parce que déjà il y a quelques mois, le gouvernement du Niger s'était aussi inquiété des conséquences de la dernière campagne agricole qui a été mauvaise. Et puis cette région vit aussi très difficilement cette conjoncture économique, puisque cette région vivait surtout du commerce avec le Nigeria. Or, depuis que le conflit a commencé, ses voies commerciales sont devenues très limitées et le commerce s'est raréfié.
Voilà, c'était Oumarou Dadi Rabiou du CICR, joint à Niamey par Camille Gros-Didier.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Retour ce soir sur les affrontements qui ont eu lieu hier en Guinée. Des populations voisines se sont affrontées à la frontière avec le Mali dans l'est du pays. On a maintenant le bilan, 6 morts et plusieurs blessés, selon les autorités guinéennes qui parlent d'incidents autour d'un site minier situé en territoire guinéen. On fait le point avec Zakaria Camara.
Dans un communiqué de presse, Conakry annonce 14 blessés, tous admis au poste de santé de Balandou, du nom du village guinéen de Mandiana. 6 corps sans vie et un blessé grave retrouvé à Niaouléni sur le territoire malien. La même source note qu'il s'agit d'affrontements dans la préfecture de Mandiana. Des populations du village Kantedou-Balandou avec celles du village Samaya côté malien. Cet incident, annonce le porte-parole du gouvernement, a éclaté autour d'un domaine minier situé en République de Guinée. Il a enregistré des tirs d'armes à feu, ajoute le communiqué du gouvernement. Les autorités guinéennes lancent un appel pressant aux populations concernées afin, disent-elles, qu'elles fassent preuve de responsabilité dans la sauvegarde des liens séculaires qui lient les populations maliennes et guinéennes. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Fin janvier, la Cour de cassation en France a définitivement confirmé le renvoi aux assises de deux anciens bourgmestres rwandais, Tito Barahira et Octavien Genzi, pour leur participation présumée au génocide des Tutsis en 1994. Une décision qui ouvrait la voie à la tenue du deuxième procès en France sur le génocide rwandais, après celui de Pascal Simbi-Kangwa, condamné en mars 2014 à 25 ans de réclusion criminelle pour génocide et qui a fait appel.
Cette semaine, Octavien Genzi a été débouté par la Cour d'appel de Toulouse dans une autre affaire. Le tribunal a confirmé une décision prise en première instance dans une affaire qu'il opposait au collectif des partis civils pour le Rwanda, l'ONG qui traque les génocidaires rwandais présumés installés en France. Et son président est Alain Gauthier.
Le CPCR avait publié sur son site web en mai 2014 un communiqué qui, selon Genzi, portait atteinte à la présomption d'innocence. Le tribunal a donc statué en faveur du CPCR et de M. Gauthier. Ce dernier revient sur la décision.
En première instance, donc, Octavien Genzi avait porté plainte contre moi-même et contre le CPCR pour non-respect de la présomption d'innocence dans un communiqué que j'avais diffusé sur notre site internet le 14 mai 2014. En première instance, M. Genzi avait été débouté et il a fait appel de cette décision. Et la Cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision prise en première instance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans l'article incriminé d'atteinte à la présomption d'innocence contre M. Genzi.
Mais alors, quel est cet individu? Rappelez-nous qui il est.
Alors, M. Genzi, en fait, est une personne qui est soupçonnée d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. C'était un bourgmestre de la ville de Kabarondo, dans l'est du Rwanda. Et au CPCR, donc, nous l'avions retrouvé à Mayotte, où il vivait sous un autre nom que le sien. Nous avons donc déposé plainte contre lui et il a été aussitôt arrêté. Et il est actuellement en détention provisoire dans une prison de la région parisienne en attendant son procès d'assises avec un de ses co-accusés, ancien bourgmestre lui-même de Kabarondo, Tito Barahira.
Votre ONG a suggéré le financement des procès d'assises en France par la communauté internationale. Pourquoi?
Oui, alors c'est nous-mêmes au CPCR qui avons lancé une sorte de cri d'alarme pour la simple et bonne raison que chaque procès d'assises auquel on va participer à partir de maintenant, eh bien, nous coûte extrêmement cher parce que jusqu'à maintenant, depuis 15 ans que nous existons, nos avocats ont travaillé quasi bénévolement au service de notre association et de la cause que nous défendons. Lorsqu'un procès arrive, c'est au minimum 6 semaines donc, de procès et les avocats qui nous épaulent eh bien, ne peuvent pas s'absenter pendant 6 semaines de leur cabinet au risque de mettre en péril le cabinet dans lequel ils travaillent. Donc, pour nous, c'est une charge considérable. Nous devons absolument financer les avocats qui travaillent à notre service. Et nous avons pensé que la communauté internationale, qui a financé abondamment le TPIR, pourrait aussi nous aider à financer ces procès.
Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, une ONG qui traque les génocidaires rwandais présumés installés en France. Il était joint par Camille Grosdidier.
Élection demain au Lesotho pour choisir les membres d'une nouvelle Assemblée nationale et le prochain Premier ministre du pays. Il s'agit d'élections anticipées, convoquées plus de 2 ans avant la date prévue initialement pour aider à rétablir la stabilité au Lesotho après la tentative de coup d'État d'août dernier. Les explications de Lionel Gaïma.
C'était en août que le premier ministre Thomas Tabane avait fui ce royaume enclavé d'Afrique australe pour se réfugier en Afrique du Sud, où il s'était dit alors victime de tentatives de putsch. Monsieur Tabane est à la tête d'une coalition de trois partis qui a été fortement ébranlée en juin par sa décision de suspendre le Parlement pour 10 mois. Ce qui avait été interprété comme un stratagème pour empêcher l'opposition de passer une motion de censure qui lui aurait coûté le pouvoir. Le prétendu putsch d'août a eu lieu après que M. Tabane a tenté de muter le chef de son armée, qui est considéré comme un allié de son rival, le vice-premier ministre Mutejoa Metsi, qui est lui aussi candidat à la primature aux élections de samedi. Dans une interview à la VOA, M. Metsi a reproché au premier ministre Tabane d'avoir lui-même provoqué la crise politique en se mêlant des affaires de l'armée, mais il dément qu'il y a eu tentative de coup d'État.
There was no coup.
Il n'y avait pas de putsch. A-t-on vu un nouveau Premier ministre ou quelqu'un dire qu'il était Premier ministre? Rien de cela ne s'est passé. Je sais que les gens le répètent partout, mais il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État. Les élections anticipées de samedi sont le résultat d'une médiation de la SADC qui a permis aux partis de la coalition de mettre fin à la suspension du Parlement. Le Premier ministre est candidat à sa propre succession et fait face non seulement à M. Metsing, mais aussi à d'autres ténors politiques dont l'ancien Premier ministre Pakalita Mosisili, qui appartient au principal parti d'opposition du Lesotho. Vu ce grand nombre de rivaux dans le même poste, on ne s'attend pas à ce que l'un d'entre eux ait la majorité absolue. Ce qui pourrait conduire à la recherche d'alliés pour former un gouvernement viable. 23 partis sont en lice. Mais M. Metsi est optimiste quant aux chances de la prochaine coalition, disant que celle qu'il avait formée en 2012 avec M. Tabane est une grosse erreur. Immédiatement après que nos relations avec l'ABC, le parti du Premier ministre, se sont gâtées, nous avons pris contact avec le parti DC et décidé de travailler ensemble. Nous n'aurions jamais dû entrer dans cette coalition avec l'ABC parce que nous avons trop de divergences de vues sur pas mal de questions. Le parti DC est notre allié naturel et aujourd'hui nous sommes conscients de notre erreur.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music. Les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Pour parler de paix au Mali entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, la médiation algérienne a remis un nouveau projet d'accord aux deux parties. Il mentionne l'appellation Azawad comme une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique partagée par différentes populations du Nord Mali.
Dans la région de Gao, dans le Nord Mali, les enseignants ont arrêté de travailler à compter d'aujourd'hui et cela jusqu'au 6 mars. Raison, insécurité au sein des établissements scolaires.
En Mauritanie, le gouvernement a annoncé la création d'un organe indépendant pour prévenir la torture. C'est ce que rapporte l'agence mauritanienne d'information.
La présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a été reçue aujourd'hui à la Maison-Blanche par le président Barack Obama. Une rencontre qui devait notamment s'articuler autour de la lutte contre Ebola.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
On remercie Tian Wang à la console technique. Morgane, et il fait seulement 1 degré Celsius ici à Washington, mais on ne peut pas se plaindre.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.